France Culture.
Mais pour l'heure, on retrouve le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on reviendra bien entendu sur ce plan présenté hier soir par Donald Trump, censé mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Le Hamas n'a toujours pas fait connaître sa réponse. De son côté, le Premier ministre israélien a déjà fait une première entorse ce matin en prévenant que son armée resterait dans la majeure partie de l'enclave. On se rendra également en Italie, la péninsule qui ressent brutalement les effets des droits de douane imposés aux Européens par Washington. On parlera élection présidentielle en France, où quant à un an et demi de l'échéance, un baromètre nous apprend ce matin que dans tous les cas de figure testés, quel que soit le candidat du Rassemblement National, celui-ci caracole en tête avec 33-35% d'intention de vote au premier tour. Enfin, comment maintenir un système d'aide publique dans un contexte de fortes restrictions budgétaires? Deux dispositifs sont à nouveau disponibles depuis ce matin en France, MaPrimeRénov et le leasing social, mais dans tous les cas sous une forme, on le verra, nettement moins ambitieuse. Comme à son habitude, le président américain n'a pas économisé les superlatifs en évoquant rien de moins que peut-être l'un des plus beaux jours de la civilisation. Hier, Donald Trump a donc présenté son plan censé mettre fin de manière définitive au conflit à Gaza, lequel prévoit notamment un arrêt immédiat de la guerre, accompagné d'un retrait par étapes des forces israéliennes et d'une libération des otages dans les 72 heures. Sans compter la mise en place d'une autorité temporaire, technocratique et apolitique pour gérer les affaires courantes du territoire palestinien, dont le Hamas serait exclu et où l'autorité palestinienne n'aurait, elle non plus, aucun rôle à jouer. Mais plus que tout, après 23 mois d'une guerre abjecte, ce plan de paix censé réconcilier chacun des deux adversaires a été élaboré en réalité de manière totalement unilatéral, ce qui signifie qu'il doit encore être approuvé par le Hamas, en l'occurrence le camp pour lequel ce plan apparaît clairement le moins favorable. Or, en cas de refus par le mouvement islamiste des conditions exigées par Washington, il est déjà convenu qu'Israël aura toute latitude pour, je cite, « terminer le travail par les armes », ainsi que l'a déjà précisé le Premier ministre israélien. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
À bien des égards, ce plan semble totalement déséquilibré et apparaît davantage comme une sorte d'ultimatum finalement au Hamas, qui pourrait même se transformer en permis de tuer en cas de refus de la part du mouvement palestinien. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, le Premier ministre israélien a déjà posé un certain nombre de lignes rouges, Étienne, de nature à fragiliser davantage encore ce processus.
Oui, c'est ça. Alors qu'au départ, ce processus avait bien identifié le nœud qui bloque toutes les avancées depuis des mois. Le plan de paix était au carrefour des lignes rouges de chaque partie. Il demandait à Israël d'arrêter les bombardements et de se retirer de l'enclave, et au Hamas de désarmer et de renoncer à son pouvoir. Mais le calendrier des avancées est lointain, les contours de la gouvernance restent flous et les conditions du retour de l'autorité palestinienne sont pour l'instant très sommairement présentées. C'est la première phase. L'autre, c'est la marge de manœuvre donc que s'accorde le Premier ministre israélien. Depuis hier soir, Benjamin Netanyahou égrène ses conditions. Ce matin, donc, il rejette l'idée d'un État palestinien à nouveau. Il dit que l'armée restera dans la majeure partie de la bande de Gaza, ce qui est quand même problématique pour le Hamas. Hier, il avait déjà parlé d'un retrait modeste et d'une mise à l'écart de l'autorité palestinienne. Le Premier ministre dépend toujours politiquement des deux partis minoritaires d'extrême droite. Ils sont partisans de la poursuite de la guerre et de l'occupation de Gaza. Ce matin, l'une des deux figures, le ministre Bezalel Smotrich, a ouvertement critiqué le plan, mais il n'a pas mis pour l'instant sa démission dans la balance. On peut donc soupçonner le Premier ministre de poser ses lignes rouges pour cimenter son extrême droite. C'est aussi un moyen pour tenter de pousser le Hamas à la faute. S'il refuse cet accord au contour de plus en plus instable, eh bien Israël, vous le disiez, aura les mains libres.
Merci Étienne Monin. Alors en dépit de sa fragilité, dès hier, de nombreux pays à travers le monde ont salué ce plan de paix du président américain, commencé par plusieurs pays arabes et musulmans, dont l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan. Tous non seulement saluent, je cite, les efforts sincères de Donald Trump, mais s'engagent par ailleurs à aider à mettre en œuvre ce plan. Une bonne nouvelle donc pour le président américain. Dès lors, Marie-Pierre Véraud, que le soutien de ces pays arabes et musulmans sera évidemment indispensable pour espérer obtenir l'accord du Hamas.
Ce sont en fait les seuls interlocuteurs du mouvement islamiste palestinien, les seuls à même d'infléchir la ligne dure prônée jusqu'à présent par le Hamas, le Qatar bien sûr en première ligne, Mais qu'y a-t-il à négocier sinon une acceptation pure et simple du plan de Donald Trump qui s'apparente à une capitulation du Hamas ? Le Qatar ou la Turquie pourraient offrir à ses dirigeants un sauf-conduit, garantir leur sécurité, un éventuel repli si le plan devait aller à son terme. Cette assurance-vie, c'est un aspect à ne pas négliger. Mais il apparaît que c'est plus par le coût pour le mouvement palestinien en cas de rejet du plan que par les bénéfices que les pays de la région peuvent tenter de le convaincre. Ils avaient dès cet été appelé à son désarmement, à son abandon de toute velléité de gouvernance du territoire. C'était lors de la conférence présidée par la France et l'Arabie Saoudite. Le Hamas court donc le risque, en cas de refus, d'être lâché par les derniers États qui lui parlent encore. Les pays arabes et musulmans peuvent aussi faire valoir leur engagement sonnant et trébuchant à reconstruire Gaza, voire à envoyer des forces de sécurité et donc mettre en avant les bénéfices pour la population palestinienne. Mais le Hamas est-il vraiment prêt à se saborder alors que l'existence d'un État palestinien n'est pas garantie et que le retrait total de l'armée israélienne est tout sauf assuré? Détail non négligeable, le Hamas est dual. Il y a sa branche politique au Qatar, mais aussi la branche armée, les brigades Ezedim al-Qassam à Gaza. Rien ne garantit que la seconde se plierait à un accord donné par la première.
Et pour continuer donc d'évoquer cet accord, invité à présent de la rédaction, Leïla Sora, chercheuse au Centre arabe de recherche et d'études politiques et autrice de Le Hamas et le Monde. Bonjour madame.
Bonjour.
À bien des égards, ce plan semble assez irréaliste puisque élaboré avec des conditions dont les États-Unis et Israël savent qu'elles ne sont pas acceptables a priori pour le Hamas. Selon vous, y a-t-il une volonté derrière ce plan d'encourager le mouvement islamiste à rejeter cet accord ?
Dans la continuité des tentatives précédentes, de l'administration américaine et l'administration Trump, là, propose un plan qui est totalement conforme aux intérêts de Netanyahou. Donc il s'agit en effet pas d'un plan de paix ni d'un accord, il s'agit d'une proposition de capitulation. Et en fait, voilà, dans la continuité de ce qui était proposé auparavant, depuis plusieurs mois maintenant, c'est imposé en fait par la dite négociation ce que l'armée israélienne n'a pas réussi à faire par la force. L'armée israélienne a échoué à libérer les otages, à éliminer le Hamas, et donc, ayant échoué à réaliser ses objectifs par la force, il tente en fait depuis plusieurs mois de le faire par la négociation. Mais la négociation, il faut bien ici, comme vous l'entendez, bien voir que c'est une continuation de la guerre par d'autres moyens.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence avec ce plan par rapport au précédent processus de négociation qui ont tous échoué d'ailleurs, aboutir à un cessez-le-feu.
On a là, comme auparavant, je pense une campagne médiatique qui consiste à imposer l'idée qu'il y a une proposition de paix qui arrive sur la table, avec une campagne médiatique qui s'est peut-être pour la première fois imposé de manière beaucoup plus évidente. L'idée qu'on a là une proposition inédite, Trump l'a redit à plusieurs reprises, qui en réalité, c'est une proposition qui a été formulée uniquement de concert avec Netanyahou, qui a complètement ignoré la partie palestinienne. Mais peut-être cette fois, on devrait insister sur l'intégration de nouveaux acteurs par Trump, qui s'est donné les moyens pour la première fois de marketer, on va dire, ce nouveau plan prétendument plus inclusif, avec la participation du Pakistan, de l'Indonésie, de la Turquie, qui en fait sont des pays qui ont annoncé soutenir cette proposition, en plus des autres pays arabes. Donc je pense que c'est là peut-être qu'un élément nouveau. Trump force la main aux Palestiniens, mais pas uniquement dans le face-à-face, il inclut des nouveaux acteurs.
Et le Qatar affirme d'ailleurs qu'une nouvelle réunion avec le Hamas et la Turquie est prévue ce soir. On l'a dit, on attend désormais une réponse du Hamas, mais de quel Hamas parle-t-on dès lors que la plupart de ses dirigeants ont été tués ?
Oui, la plupart de ces dirigeants de la branche armée du mouvement, probablement on n'a pas encore de chiffres exacts sur le nombre de morts au sein des brigades Al-Qassam. Les dirigeants qui résident à l'extérieur, donc les chefs de la diaspora, vous avez raison, Ismail Haniyeh a été assassiné, Salah Hariri, mais peut-être rappeler que l'opération, l'attaque du 9 septembre dernier contre la délégation du Hamas qui négociait, a échoué. Donc Khalil Haya, le chef de la délégation du Hamas, est toujours vivant. Que ce texte donc est toujours en fait il propose, comme on l'a dit, une capitulation au Hamas, rien d'autre. Aucune garantie que l'armée israélienne cessera en effet ses opérations, ni même se retirera entièrement de la bande de Gaza au final. Mais peut-être qu'il faut dire aussi par rapport au plan précédent, c'est que là ce plan il enterre définitivement la solution des deux États, puisque ce qu'il propose en filigrane c'est un État séparé à Gaza. Donc, et là, de manière flagrante, on voit bien qu'il y a une grosse contradiction. Si plutôt qu'une contradiction, on peut même dire des faux-semblants de nos diplomaties occidentales qui prétendent faire avancer cette solution, alors même qu'elles soutiennent le plan et que ce plan Trump enterre définitivement la solution des deux États. Donc peut-être faire remarquer ça en premier plan. Et puis l'autre élément important, il me semble, c'est que le plan arrache concrètement la direction du territoire aux Palestiniens. C'est pas encore très clair qui gouvernera, qui aura les forces de la coercition, la police civile, etc. Mais ce qui est proposé dans le plan, c'est un comité provisoire intérimaire palestinien qui n'a pas la force, qui n'a pas de police, et qui sera supervisé par un conseil international pour la paix, présidé lui-même par Trump. Donc voilà, on voit bien ce qui est proposé, c'est une continuation de la colonisation par d'autres moyens, hein, plus indirects, mais qui continue d'asphyxier toujours autant les Palestiniens.
C'est bien compris. Merci, Leïla Sera, chercheuse donc au Centre arabe de recherche et d'études politiques, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Les États-Unis se dirigent tout droit vers la paralysie budgétaire.
Oui, c'est du moins l'avertissement lancé hier par le vice-président Jelly Vance à l'issue d'une rencontre à la Maison-Blanche entre responsables républicains et démocrates qui n'a fait que confirmer l'impasse des négociations avant la date limite de ce soir. Alors, il est d'usage que chacun des deux camps rejette la responsabilité sur l'autre. Il n'empêche que sans adoption d'un texte budgétaire, même temporaire, à minuit, les États-Unis se trouveront donc en situation de shutdown avec pour conséquence la mise à l'arrêt de la plupart des services fédéraux. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a fait du retour au protectionnisme un marqueur fort de sa politique, au point d'inverser même totalement la stratégie américaine visant jusqu'à présent à maintenir au contraire une économie ouverte, et c'est ainsi que son administration a imposé un droit de douane de base de 10% à tous les pays, avec des taux parfois beaucoup plus élevés même pour un certain nombre d'entre eux. Et les premiers effets se font déjà ressentir, illustration en Italie où les chiffres de l'export hors UE pour le mois d'août viennent d'être publiés, et sans surprise Bruno Duvic, ils attestent d'une baisse extrêmement marquée.
Août 2024, août 2025, les exportations italiennes vers les États-Unis ont baissé de 21%. Parmi les secteurs qui souffrent, les composants industriels, hors l'industrie, un quart du PIB, contre 17% en France, souffrent déjà depuis 2 ans. Les producteurs de vin souffrent aussi, ils rognent sur leurs marges, ils affirment avoir baissé les prix de 15% aux États-Unis pour compenser les droits de douane. Un autre effet que l'on mesure à travers les commentaires, c'est le surcroît d'incertitude et de bureaucratie. Incertitude liée au changement de pied régulier de Donald Trump, bureaucratie pour les exportations de biens qui contiennent par exemple de l'acier ou de l'aluminium. Là, les surtaxes sont de 50% contre 15% pour les autres matières. Au plan politique, enfin, on constate que la relation présentée comme spéciale entre Donald Trump et Giorgia Meloni n'a pas permis de protéger l'Italie. Deux interprétations, elle n'a pas avancé en solo, elle a joué la carte européenne, ou bien son influence dans le bureau ovale se réduit à peu de choses.
À la peine, depuis des mois, Keir Starmer tentera cet après-midi de convaincre qu'il peut encore redresser son pays. Le Premier ministre britannique n'est au pouvoir que depuis 15 mois, mais déjà il est au plus bas dans les sondages et surtout sa politique, laquelle exige des décisions ni gratuites et encore moins faciles à remise en cause, y compris dans son propre camp, au point que son avenir à la tête du Parti travailliste et donc du gouvernement est devenu le sujet de discussion dans les allées du congrès du Labour qui se tient à Liverpool.
Midi 44 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
D'est en ouest, on le sait partout, la montée de l'extrême droite transpire en Europe et la France n'échappe pas à la règle. À un an et demi de l'élection présidentielle, un sondage IFOP publié ce matin place le Rassemblement National loin et même très loin devant les autres formations politiques. Au moins 33% des personnes interrogées déclarent avoir l'intention de voter au premier tour pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors, on le rappelle, à un an et demi de l'échéance, forcément, ce sondage ne présage de rien. Il n'a pas en soi de valeur intrinsèque. Pour autant, Stéphane, il acte, malgré tout, dès aujourd'hui, un véritable rapport de force.
Oui, puisqu'il installe le Rassemblement national en première position des intentions de vote et de très loin, avec 33 à 35% des personnes interrogées qui déclarent avoir l'intention de voter pour le candidat RN au premier tour de l'élection présidentielle, et ça quel que soit le candidat, Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Il faut bien sûr rester très prudent avec cette enquête complètement décorrélée de l'élection à un an et demi de l'échéance. Mais elle semble toutefois confirmer, et c'est son principal enseignement, la progression continue du vote en faveur du Rassemblement national au fil des des différents scrutins. Marine Le Pen a fait 21% au premier tour de la présidentielle en 2017, 23% toujours au premier tour en 2022 et Jordan Bardella plus de 31% aux européennes en 2024. Aujourd'hui, avec 33 à 35% d'intention de vote, on est encore au-delà, ce qui donne l'impression d'une progression inexorable de ce parti dans l'opinion. Ça signifie que ses potentiels électeurs considèrent ce parti politique aujourd'hui comme le principal parti incarnant l'alternance au pouvoir en place, et ça en fait le favori de l'élection à venir. L'autre enseignement de cette enquête est que le potentiel adversaire du candidat RN se situe très loin derrière. Entre 16 et 19% pour Édouard Philippe, de 14 à 16% pour Raphaël Glucksmann, 12 à 13% pour Jean-Luc Mélenchon, 9 à 13% pour Bruno Retailleau. Ces chiffres n'ont aucune valeur en soi, mais ils révèlent dans le rapport de force une grande indétermination du corps électoral sur le candidat ou la formation politique susceptible de rivaliser avec le Rassemblement national. Il n'y a pas de favori, ni à gauche, ni au centre, ni à droite, et donc pas d'offres politiques alternatives qui apparaissent comme étant crédibles face à celles du RN. Ça laisse augurer que le seuil de qualification pour le second tour sera très bas derrière le candidat RN, et ça promet aussi une grande incertitude sur ce qui nous attend en 2027.
Merci Stéphane Robert. L'opération avait été suspendue l'été dernier en raison d'un afflux trop important de demandes, mais aussi d'un niveau de suspicion de fraude élevé. Et finalement, le guichet MaPrimeRénov', ce dispositif permettant d'améliorer la performance énergétique de son logement, est à nouveau disponible depuis ce matin. Timothée David, bonjour.
Bonjour.
En réalité, les conditions d'obtention vont évoluer de telle sorte que tout le monde ne pourra pas en profiter.
Oui, cela tout d'abord car le nombre de dossiers est limité. 13 000 maximum pourront être déposés d'ici la fin de l'année auprès de l'Agence Nationale de l'Habitat. Et des demandes pourraient bien se bousculer au guichet car certains travaux ne seront plus éligibles au 1er janvier prochain. Si tout le monde ne pourra pas en profiter, c'est aussi et surtout car le montant de travaux pouvant être pris en charge est abaissé et les critères d'éligibilité resserrés pour recentrer le dispositif sur les ménages les plus modestes. Et même, ces ménages ciblés hésiteront sans doute à se lancer dans un chantier de rénovation. C'est ce que redoutent beaucoup de professionnels du secteur. Le revenu maximal pour un couple sans enfant éligible est de 2000 euros par mois environ. S'il souhaite faire grimper le diagnostic énergétique de son logement de 2 lettres, de GAE par exemple, c'est en moyenne 26 000 euros de travaux. Avec les nouveaux critères, il restera à la charge de notre ménage 5 200 euros. Un ménage de propriétaire qui aura aussi peut-être un crédit sur le dos.
Alors, il se trouve qu'un autre dispositif est de retour aujourd'hui en direction, là aussi, des plus modestes. C'est celui du leasing social, ce mécanisme qui subventionne donc la location de véhicules électriques tout en permettant leur achat. Il avait été à l'origine l'an dernier de 20% du total des ventes de véhicules électriques. Un succès tel que le gouvernement avait dû carrément y mettre fin car l'opération devenait trop coûteuse pour les finances publiques. Ce dispositif est donc à nouveau de retour. Sauf que là encore, Timothée, tout le monde ne pourra pas en profiter.
Exactement. Pour davantage de prévisibilité, le nombre de dossiers est cette fois-ci plafonné, 50 000 et pas davantage. Et le plafond devrait être vite atteint. Selon Renault et Stellantis, 200 000 pré-dossiers ont déjà été déposés cet été. Sans doute car les critères d'éligibilité évoluent peu. Dans le détail, le revenu fiscal de référence pour y prétendre doit être inférieur ou égal à 16 300 euros par part. Il faut également travailler à plus de 15 km de son domicile. Les ménages concernés et qui auront formulé leur demande dans les premiers, donc, auront à payer entre 95 et 170 euros par mois selon les modèles.
Merci Timothée David. Ils n'ont aucun contact avec de la famille, des amis ou même le voisinage. Et parce qu'ils ne rencontrent précisément personne ou quasiment jamais, 750 000 seniors sont aujourd'hui considérés en situation de mort sociale. C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce matin par l'association Les Petits Frères des Pauvres. En 8 ans, la solitude extrême des personnes âgées a augmenté de 150%. Alors le vieillissement de la population explique en partie cette explosion, mais pas seulement. La crise du Covid a également amplifié la rupture des liens sociaux, de sorte que les plus fragiles n'ont jamais retrouvé leurs habitudes d'avant, sans compter que la baisse de la natalité pourrait encore aggraver cet isolement à l'avenir. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, majoritairement ensoleillé à l'exception d'un quart nord-est où les nuages devraient encore persister. Quant aux températures, elles sont comprises entre 16 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alix Forgeau et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.